Alors, pour ceux qui étaient présents, c'était début août, je crois, j'avais donné un message sur Élysée et j'avais donné trois axes pour devenir un vrai disciple. Qui était là à ce moment-là? Donc, je vais faire un petit rappel parce que on voit que c'était les vacances. Je vous avais donné d'abord qu'Élysée montre que pour être disciple, un, il faut s'engager totalement. Et j'avais donné l'exemple d'Élysée qui avait abandonné ses bœufs, son travail, etc., pour suivre Élie. La deuxième chose, c'est qu'il fallait aimer les autres plus que soi. Et la troisième chose, ne pas avoir peur de commencer par des petites choses. Et que souvent, Dieu nous demandait de faire des petits trous. C'était l'histoire, vous savez, des rois. En Israël, roi de Juda, roi d'Israël et le roi de je ne sais plus trop qui allaient en guerre contre un autre roi. Et pour leur donner la victoire, Élisée leur dit, il faut que vous creusiez des petits trous. Et avec la lueur de l'aube et puis le reflet, les ennemis crurent que c'était du sang. Et ils se sont dit, ça y est, ils se sont entretués. Et puis ils sont allés tranquille et mille, comme on dit chez nous. Mais ils sont tombés sur une armée et ils ont été vaincus. Voilà. J'ai deux choses à vous donner en plus. C'est que, je vais compléter par deux petites choses pour devenir disciple. La première, c'est qu'il faut prendre soin concrètement des frères et des sœurs. Tiens, vous savez que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous devenons membres du corps et qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas se dissocier des autres. Autrement dit, normalement, tout ce qui vous concerne devrait m'intéresser. C'est pour ça qu'on a prié pour ce couple qui s'en va, parce que leur vie nous intéresse, parce que nous sommes liés à eux par le corps de Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça commence bien. Je n'aurai pas encore de tomates pour l'instant. Et je vais vous lire donc un passage quand même assez évident. Une femme, d'entre les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée. Apparemment, c'était un des collaborateurs d'Élisée. Et sa femme vient le voir et elle lui dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un seul vase, un vase. Et elle dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, d'ailleurs, imaginez un peu la femme qui est aujourd'hui au bord du gouffre. D'accord? Et Élisée est en train de lui dire. En fait, visiblement, lui, il n'avait pas l'argent pour venir à son secours, mais il est en train de l'emmener vers la solution divine, pas vers une solution humaine. D'accord? Mais imaginez le cœur de cette femme à qui on dit, tu vas chercher tous les vases que tu peux chez tes voisins. Belle réponse à son problème, n'est-ce pas? Et il dit, va demander donc au dehors de chez tous tes voisins des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, elle lui présentait les vases et elle les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, maman. Et l'huile s'arrêta. Alors, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi, tes fils, et ce qui restera. C'est une belle histoire. C'est la mort d'un prophète. Oui, les prophètes finissent par mourir. Les responsables d'église, les ministères finissent par mourir. Et cet homme, je pense qu'il les connaissait bien, Élisée. Et cet homme, il laisse une femme, deux enfants, sans ressources. Sans ressources, elle n'a plus rien. Et en plus de la tristesse de la perte de son mari, Cette femme va devoir supporter le poids des responsabilités. Vous imaginez ce qu'elle va, la charge qui vient sur ses épaules lorsque d'abord elle apprend la mort de son mari, elle voit son mari décédé, mais en plus, elle s'aperçoit que le fichier Excel des comptes est vide, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus rien, elle est complètement désespérée dans sa situation financière, et il y a vraiment une crainte de tout perdre, de tout perdre. Et elle crie. Et elle crie à qui ? Elle crie pas à Dieu. Elle crie vers un homme, vers un frère. Vous savez, parfois, les gens sont tellement désespérés qu'ils n'ont plus la capacité de crier vers Dieu. Et parfois, ils vont venir vous crier, crier à vous leur souffrance, leur désespoir. Ils vont venir crier et dire, voilà, je n'ai plus rien, je suis désespéré. La question que je me pose, moi, et que je vous pose, c'est est-ce que vous répondez présent lorsqu'on crie à vous ? Réfléchissez à ça. Zut, comme on voit des t-shirts actuellement, je peux pas, j'ai piscine, ou je peux pas, j'ai pétanque. Et parfois, dans notre cœur, il y a des choses qui sont marquées là. Je peux pas. Je dois aller conduire ma belle-mère faire les courses. Je peux pas. J'ai ça à faire. Je peux pas, je suis fatigué. Je peux pas. Voilà ce qui est écrit, pas sur notre t-shirt, mais sur notre cœur. Et parfois, nous fermons la porte à des personnes qui souffrent. Votre situation peut peut-être ressembler à celle de cette femme. Vous pensez que vous n'avez plus assez. Là, je parle à ceux qui sont désespérés, à ceux qui vivent parfois des temps difficiles. Vous éprouvez un sentiment de désespoir et vous vous concentrez uniquement sur vos limitations. Souvent, c'est le cas. Quand on est dans une situation difficile, on se concentre sur ce que nous n'avons pas. Vous avez remarqué ça ? On se dit, mais je n'y arriverai pas, parce que notre regard est fixé sur la feuille Excel où il est marqué moins 30, ou moins 50, ou moins 100. On est fixé sur nos limitations. Et Dieu voit nos problèmes. Et il le voit complètement différemment de la manière dont nous les voyons. Je parle aux personnes qui se sentent désespérées, qui sont dans des difficultés aujourd'hui, ou qui n'arrivent pas à s'en sortir, ou qui ont des difficultés pour se sortir de situations, de certains péchés, de certaines situations. Dieu ne voit pas comme toi, tu vois ta situation. Parce que Dieu prend le vase d'huile et il le multiplie. Il va chercher au fond de toi et tout le peu de choses que tu as. Là, cette femme, il ne lui reste plus rien, si ce n'est que le temps qu'elle aura encore ses enfants, la capacité d'aller chercher des vases chez les voisins. Vous imaginez, elle n'a plus rien, si ce n'est qu'un peu d'huile dans un vase. Et regardez, Dieu va chercher souvent ce que nous n'avons plus, ce qui reste plus, il n'y a presque plus rien pour le multiplier. Oui, tu regardes et nous regardons à nos limitations, Dieu voit ce qui nous reste, au petit grain de sénévé qui reste dans nos vies. Et lorsque vous vous sentez accablé ou à court d'options, rappelez-vous que vous avez tout ce dont Dieu a besoin pour sortir de vos situations. Tout. Tout est là pour permettre à Dieu de vous sortir de votre situation. Maintenant, je voudrais vous parler du cœur d'Élisée qui doit être notre cœur de disciple. Notre cœur d'homme et de femme, notre cœur de frère, notre cœur de sœur. Il n'était pas marqué sur l'habit d'Élisée, « Je peux pas, j'ai pétanque ». Il était marqué « Mon cœur est prêt ». Et le cœur d'Élisée ici est prêt à écouter. Mais bien plus, parce que parfois vous avez des gens qui vous écoutent et qui marchent. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, et ils vous écoutent. Mais ils ne s'arrêtent pas pour prendre soin de vous. Et si tu veux être un disciple, tu dois être capable d'écouter, mais tu dois être capable de t'arrêter. Et là, il lui dit, que puis-je faire pour toi, femme ? Parce que lorsque une personne est dans le désespoir, lorsqu'elle est dans la difficulté, ce qui va changer sa vie, ce n'est pas quand tu vas l'écouter que tu vas continuer ton chemin. Ce qui va changer le cœur de cette femme et le cœur d'une personne désespérée, c'est lorsque tu t'arrêtes et que tu cherches à comprendre et que tu cherches à guider la personne. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement qui est contraire à cet environnement-là. On est tout le temps en train d'essayer de faire de la perf, de la performance. On le voit dans la vie des sociétés, on le voit dans la vie de tous les jours. Même les sportifs amateurs font de la perf. Il y en a qui montent le Ventoux et ils calculent le temps qu'ils ont monté le Ventoux pendant leurs vacances. Pour ceux qui ont Facebook. Geoffrey, si tu m'écoutes, petit salut. Et l'esprit dans lequel nous fonctionnons, l'esprit de la perf nous empêche de prendre du temps. Je suis sûr qu'Élisée avait autre chose à faire que de s'occuper de cette femme. C'était un homme ultra occupé, Élisée. Il avait sans doute besoin d'aller dans le temple ou je ne sais pas, chez lui pour prier, pour chercher. Il avait besoin peut-être, il était peut-être appelé à aller prêcher ou annoncer des paroles prophétiques. Il a laissé tomber son ministère, ce qu'il était pour prendre soin de cette femme. Vous savez, c'est Nathalie qui me disait ça ce matin. Elle a compris ça lors d'une formation avec Matt Marvan. Elle m'a dit, les actes parlent beaucoup plus que nos paroles. Vos actes parleront beaucoup plus que vos paroles. Il a amené cette femme à dépendre de Dieu et pas de lui. Vous avez remarqué comment il fonctionne, Élisée ? Il le fait souvent hein, avec le Syrien, Naaman le Syrien. C'est exactement la même chose. Il dit, va te tremper dans le Jourdain. Il amène cette femme à entrer dans une vraie dimension de foi. La solution ne vient pas d'Élisée. Il le sait. La solution, c'est Dieu qui l'a. Et il amène cette femme à la guider vers Dieu. Vers sa solution. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent qu'elles vont pouvoir régler les choses à la place des gens. C'est faux. Et croyez-moi, j'ai fonctionné pendant des années comme ça. Je me suis fatigué. À un moment donné, j'étais épuisé. Je pensais, je me mettais à la place de Dieu. Je vais régler, c'est rien. Je vais régler le problème à ta place. Mais c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Quand tu écoutes, quand tu comprends que tu guides une personne, tu ne dois pas guider la personne à dépendre de toi, mais tu dois l'amener à dépendre de Dieu. Et notre devoir en tant que disciple, c'est de prendre le temps d'écouter. Oui, ça coûte, vous savez, d'écouter. Prendre une heure ou deux avec un frère ou une sœur, ça prend du temps, bien sûr. Oh, j'aimerais tellement rentrer à la maison plus tôt ce soir. Bien sûr. Mais tu ne peux pas être disciple en voulant rentrer tous les jours chez toi à 16h30 alors que tu as fini à 16h. Ce n'est pas vrai. Être disciple, ça coûte. C'est pourquoi Jésus dira que celui qui veut le suivre, il a des choses à abandonner. Être disciple, c'est être prêt à abandonner un certain confort. C'est abandonner ton emploi du temps, c'est abandonner tes propres projets pour t'occuper de ton frère et de ta sœur. Et ça, ça parle au cœur des gens aujourd'hui. Vous savez, hier, je peux le dire par rapport à ton pote, Patrice, hier, on a fait un déménagement de... Enfin, là, c'était dans un hangar à 2 km, c'était moins fatigant, moins de route. Donc, il y a un ami de Nathalie et Manu qui... Il s'appelle Patrice, un homme 72 ans. Il a été entrepreneur jusqu'à 67 ans, une entreprise d'électricité, de maintenance électrique dans l'industrie. Il construisait, je crois, des bâtiments, vous savez, dans les zones industrielles, etc. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a frappé chez cet homme. Il vient me voir et puis il me dit, je lui dis, vous avez un super hangar. Hein, c'était... Ben, il me dit, ici, c'était mon entreprise. Et je lui dis, OK. Alors, on commence à discuter. Je dis, vous savez, moi, je travaille chez Veolia, pas très loin d'ici, etc. Puis, le contact se fait. Et puis, à un moment donné, il me dit ceci. Et ça, ça m'a vraiment frappé, la manière dont il a abordé les choses. Il a dit, vous savez, j'ai arrêté mon entreprise il y a 5 ans, du jour au lendemain où j'ai arrêté l'entreprise. Ceux que je croyais être mes amis ne m'ont plus appelé. Silence radio. Et j'ai vu que cet homme était vraiment blessé dans son cœur. Et il a dit, ce n'était pas des amis, c'était des relations de travail. L'église, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une église de relations. C'est une famille de frères et de sœurs où nous devons apprendre à nous écouter, à prendre des soins des uns et des autres et prendre le temps ensemble. Autrement dit, si tu t'imagines que tu vis des vraies relations uniquement le dimanche ici, tu te leurres. Ce n'est pas ici qu'on veut des relations. Bien sûr, on va boire un petit coup après. On va prendre des trucs apéritifs avec des gobelets maintenant, avec des vrais verres. Puisque... Mais c'est pas... OK, on bâtit là. Mais quand tu prends du temps avec ton frère et ta sœur, d'ailleurs, un petit café ou... C'est là où tu bâtis les choses. C'est là où tu construis les choses. Et cet homme a tellement été frappé. Il a vu des personnes sous la chaleur, des jeunes de l'église. Il a vu ces jeunes venir au secours, aider Manu et Nathalie. Il a été bouleversé par ça. Vous imaginez quelqu'un à qui on lui dit... à qui on ne répond plus au téléphone, quelqu'un qu'on n'appelle plus au téléphone, il voit d'une manière naturelle, spontanée, des frères et des sœurs aider un autre frère et une autre sœur, et ça lui parle au fond de son cœur. Moralité, il va venir à la fin du mois de septembre, ici. Et c'est pas l'évangile qui a été prêché, c'est un acte d'amour de frères et des sœurs qui ont concrètement manifesté, ont pris le temps pour le faire. Ah, je ne dis pas que les personnes qui étaient présentes hier étaient des héros, à part peut-être le plus vieux d'entre eux. Mais je veux vous interpeller à cela. Parce que souvent, j'ai remarqué ça. Vous savez, dans l'Église, on fonctionne. Hein. On a des pôles ici qui ne fonctionnent pas trop mal. On a... des relations dites, des relations de fonctionnement. Mais si ça s'arrête qu'à ça, si du jour au lendemain, je prends l'exemple, une personne faisant partie du groupe de louanges ne vient plus, elle a décidé d'arrêter, est-ce que les gens de l'équipe de louanges vont continuer de l'appeler ? Réfléchissement. Essayez de traduire ça, ça va être compliqué. Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Quel acte dans ma vie, quel acte d'amour j'accomplis pour que ça parle tellement que les gens verront l'amour que j'ai et qu'ils reconnaîtront que Dieu est véritablement parmi nous. Le cœur d'Élisée, et je conclus par ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Eh oui. Être disciple, c'est pas être égoïste. C'est bien plus que de donner un peu. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ton frère et ta sœur ? Est-ce que tu es prêt de donner un peu d'argent, un peu de ton temps, un peu de nourriture, d'une manière concrète pour que ton frère... soit secouru. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, oui, c'est bien, sois béni. Je vais prier pour toi la semaine prochaine. S'il ne s'arrête pas, s'il ne comprend pas, s'il ne guide pas, il ne fait pas la volonté de Dieu. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité. Tous ceux dans cette communauté qui ont bénéficié soit d'une aide financière, soit d'une aide au niveau de la banque alimentaire, vous diront que ça les a profondément touchés. Mais en action en vérité, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ça peut être le sujet d'une prédication, ça, mais que je ne ferai pas ce matin. Donc, la première des choses, c'est venir au secours des frères, mais d'une manière concrète. Je vous ai convaincu ou pas ? Bon, pareil, ils sont convaincus. Deuxième chose, ne pas s'arrêter à notre premier échec. Alors là, c'est l'histoire un peu plus compliquée. Élisée dit à Géasi. Alors, je vous raconte le contexte, un petit peu, vite fait. Alors, Élisée, un jour, il rencontre une femme qui est tellement hospitalière qu'il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle lui dit « Ben, j'ai pas d'enfant. » Alors, il lui dit « Ok. » Donc, il dit « Il prophétise et puis tu vas avoir un enfant, etc. » Et l'enfant arrive et il grandit. Je vous fais rire. D'accord. Je vois le genre. On a discuté après le culte. Donc, il voit cette femme, elle se dit, j'ai pas d'enfant, je voudrais bien avoir un enfant. Bien sûr, c'est pas Élisée qui le fait, l'enfant. Hein. C'est, je te vois venir. Et donc, elle a un enfant, l'enfant naît, il grandit, et un jour, cet enfant meurt. L'enfant meurt. Vous imaginez, un cadeau de Dieu qui nous est enlevé. Et puis, donc, Élisée l'apprend. Et donc, voilà ce qu'il dit. Élisée dit à Géasi, c'est son serviteur, Saint-Terrain, en fait, mets tout ce que tu as, prends mon bâton dans ta main, marque d'autorité et d'onction du prophète, et pars. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Là, pareil, il n'utilise pas sa foi. Avez-vous remarqué? Il rentre dans le même schéma que nous avons vu précédemment. Il veut utiliser la foi de la personne, celui de Géasi. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, le pauvre. Il revient bredouille. Il a fait ce que le prophète a dit et la chose ne se réalise pas. En disant, l'enfant n'est pas réveillé. Forcément, il était mort. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort. L'enfant était couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte entre eux deux. Il pria à l'Éternel. Tiens, il commence à prier du coup là. Et là, il reçoit visiblement une révélation. Il monte, il se couche sur l'enfant. Il met sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, ses mains sur ses mains. Il s'étend sur lui. C'est un truc bizarre, non ? Et moi, je reçois ça de la part de Dieu. Je peux vous dire, t'es sûr, Seigneur, là ? Parce que c'est beaucoup plus simple, le coup du bâton, non ? Seigneur, t'es sûr, là ? J'ai un beau bâton ici, regarde. J'ai gravé tout, l'Éternel est ma force. Non, non, Élisée, tu vas t'allonger sur le petit. Hé, Élisée, tu vas mettre tes yeux devant ses yeux. Il va sentir ton haleine. Tant pis si tu t'es pas lavé les dents ce matin. Les voix du Seigneur, parfois, ce n'ont pas les nôtres. Et Dieu utilise parfois des choses incroyables pour nous amener à faire bouger, à révéler la réalité de son royaume. Parfois, on a des idées tellement étroites sur la manière dont Dieu doit faire. On a parfois des idées tellement étroites sur ce que doivent être les choses dans l'Église. Vous avez remarqué ça ? Et parfois, ces choses tellement étroites, elles nous empêchent, ces œillères, si je puis dire, elles nous empêchent de voir ce que Dieu veut faire et comment Dieu veut agir. Et donc, il fait cela, il obéit, et la chair de l'enfant se réchauffe. Oh, il se réchauffe, mais il n'est pas encore vivant. Il sent le corps se réchauffer. Élisée s'éloigne, et il dit, il y a un truc qui n'est pas clair, là. Il sent qu'il y a quelque chose qui a bougé. J'ai obéi au Seigneur, mais je sens la chaleur sur l'enfant, mais l'enfant ne respire pas. L'enfant est toujours mort, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Élisée s'éloigne, ça et là, et il part. Et là, par la maison, j'imagine, il tourne dans tous les sens. Puis il remonte, il s'étend sur l'enfant, et l'enfant éternue cette fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appelle à Géasi et dit, « Appelle cette femme, cette tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et elle sortit. Quelle belle histoire! Et vous savez pourquoi, Élisée, pourquoi cette histoire finit bien? D'accord, parce que Dieu a fait les choses. Vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'Élisée ne s'est pas arrêté à son premier échec. Et combien de fois on dit « ça ne marche pas » et on s'arrête? Et lorsqu'on reste à notre premier échec, lorsqu'on s'en tient à cela, malheureusement, souvent, on va passer à côté de grandes choses que Dieu veut nous montrer. Et parfois même, on a vu des frères et des sœurs tomber dans le péché. On a vu parfois des personnes commettre des erreurs. Et vous savez, on a fait le contraire de ce que Jésus a fait avec la femme adultère, à qui il va dire « Va et ne pêche plus ». Parfois, on a catalogué les gens pour une erreur dans leur vie. On leur a dit « Il est foutu, lui, ou elle, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui pêchent. Il est foutu, on ne fera rien avec. » Alors que là, Élisée, n'a-t-il pas réutilisé son serviteur après ? Est-ce qu'il a... Son serviteur, peut-être, a-t-il manqué de foi ? Mais lui-même, Élisée, il n'est pas rentré dans une sorte de, vous savez, d'auto-flagellation, dit « Oh, je ne suis pas bon, je ne suis pas un bon prophète, etc. » Il a dit « Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a une raison. Si l'enfant ne vit pas, c'est qu'il y a une raison. C'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire ou je n'ai pas su écouter. » Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans la situation d'Élisée ? Moi, je peux le vous dire plein de fois. Et plein de fois, j'ai abandonné à mon premier échec. Et je pense que j'ai besoin de lui demander pardon, Seigneur. Parce que je suis passé à côté de choses qu'il voulait faire. Vous demandez au Seigneur de faire quelque chose et vous savez qu'il peut le faire, mais rien ne se passe comme vous l'auriez aimé. Le bâton représente la manière dont Élisée aurait voulu que ça se passe. Ou prévu. Et ça peut prendre des jours, des mois, voire des années. Quel est l'échec de ta vie ? Y a-t-il eu un échec fort qui t'a impacté et qui t'a amené aujourd'hui à dire ou à croire que les choses continueraient comme ça. N'abandonnez pas à votre premier échec. S'il vous plaît, priez. Cherchez le cœur du Père. Cherchez Dieu. Il répondra de la meilleure des manières et au bon moment. Je voudrais vraiment vous encourager. Vous encourager. Peut-être que vous avez aujourd'hui un frère dans cette communauté ou un frère d'une autre communauté à qui vous ne faites plus confiance parce que peut-être qu'il vous a déçu une fois. Je peux vous dire une chose. Heureusement que le Seigneur m'a fait confiance à nouveau toutes les fois où je me suis planté. Et heureusement qu'ici, j'ai fait confiance à des personnes malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés, malgré leurs défaites. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette situation ? Et quelle est la situation aujourd'hui qui vous coince dans votre vie, dans vos relations avec ce frère ou cette sœur ? Et combien de fois et quelle est aujourd'hui votre attitude ? Et il y a une attitude simple à aller vérifier. Cette situation que vous auriez voulu qu'elle change, vous l'avez acceptée telle qu'elle est. Vous dites, il est mort, il est mort. Il est mort. Et n'avez pas eu l'attitude et vous, ce que vous faites, vous êtes mis dans l'immobilisme. Regardez ce que fait Élisée. Il est dit que dans la maison, il bouge ça et là. Voilà comment je le vois, Élisée, nom d'une pipe. Seigneur, il faut que tu me montres. Ce n'est pas possible. Tu dois délivrer cet enfant. Tu dois le. Vous comprenez ? Il s'est mis en mouvement. Il a mis son écoute en action. Il a commencé à bouger. Et souvent, quand tu es immobile dans ta vie de prière, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un échec qui t'a poussé à t'arrêter. Ne reste pas sur ton premier échec. Relève ton frère ou ta sœur et relève-toi et prie.